Et Boris, ce matin, à la une en Israël, on va parler de nouveaux renseignements américains qui indiquent qu'une équipe secrète de scientifiques iraniens étudie les moyens de mettre rapidement au point une arme nucléaire si les dirigeants du pays décidaient toutefois de le faire. C'est ce que rapporte le New York Times. Vous en parlez ce matin avec notre invité, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Boris, je vous laisse avec notre invité.
Bonjour David Rigoulet-Rose, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Comme le disait Didier, on va parler des nouveaux renseignements américains qui indiquent donc que les Iraniens seraient proches de mettre au point une arme nucléaire. On a quand même l'impression d'entendre depuis des années un peu le même refrain. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur où exactement en est l'Iran par rapport au développement de son arme nucléaire ?
Oui, alors il se trouve qu'effectivement il y a des informations qui ont été rendues publiques, des renseignements américains, qui évoquent le fait que manifestement d'abord il y a une accélération de la stratégie d'enrichissement de l'uranium avec une augmentation des stocks. En novembre dernier, il y avait près de 200 kilos enrichis à 60%, ce qui théoriquement permettrait la mise au point de 4 voire 5 engins nucléaires, en sachant que il faut 25 kilos à 90%, c'est le taux militaire, pour pouvoir disposer d'une matière destinée à une éventuelle bombe nucléaire. Donc il se trouve que il y a eu une passation de témoins entre l'ancienne et la nouvelle administration, et notamment Jake Sullivan, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a transmis effectivement des éléments circonstanciés à la future et actuelle maintenant administration de Donald Trump, notamment à Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale du président américain, faisant état d'une stratégie manifestement de Téhéran d'aller vers la bombe pour pallier un déficit de dissuasion induit par le fait que les proxys ont été considérablement affaiblis depuis le lancement de la guerre en octobre 2023. Et donc ça suppose qu'effectivement, de la part de Téhéran, il y aurait des velléités de mettre au point, ou en tout cas de se mettre en situation de pouvoir disposer suffisamment rapidement d'un engin nucléaire.
Oui, comme vous le dites, les derniers mois de conflit n'ont pas vraiment tourné en faveur du régime, avec leurs proxys, en effet, qui ont été grandement affaiblis. D'un autre côté, on a vu encore hier le président américain Donald Trump indiquer qu'il allait restaurer les sanctions contre l'Iran à leur maximum. Comment ça va se traduire ce changement de locataire à la Maison-Blanche pour le régime? Quel va être leur focus, si on peut dire, pour les prochaines années, plutôt la bombe nucléaire, ou plutôt essayer d'éviter de se retrouver totalement isolé à nouveau?
Il y a un débat, on le voit, on perçoit, il y a une grande effervescence au sein du Nezam, c'est-à-dire le système iranien, entre une ligne ultra-radicale qui est pour jusqu'au boutiste, donc pour effectivement concevoir un engin nucléaire, et puis d'autres, notamment autour du président Pezeshkian, qui au contraire voudraient relancer des négociations pour éviter une confrontation militaire potentielle. Donc le débat n'est pas tranché, le guide suprême n'a pas donné son aval pour l'une ou l'autre solution. C'est aussi une manière d'entretenir l'ambiguïté, hein. On sait que stratégiquement c'est un élément déterminant, le maintien d'une forme d'ambiguïté, mais évidemment c'est un jeu dangereux, parce que ça entretient des doutes sur les objectifs du régime iranien. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'horizon de la fin officiel du JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire de 2015, qui arrive officiellement à échéance en octobre 2025, même s'il est dans les faits, il est caduque, c'est une ligne effectivement rouge qui est essentielle, notamment pour la question d'une restauration potentielle de sanctions internationales. Et donc, ça explique aussi l'agitation, justement, à Téhéran, entre les partisans d'une ligne dure et ceux qui seraient pour, justement, relancer des négociations, y compris directement avec les Américains, comme certains membres du gouvernement actuel à Téhéran le suggèrent.
On trouve parfois dans les déclarations de Donald Trump des propos un peu ambivalents avec l'Iran. Quelle va être exactement sa ligne au nouveau président américain face à l'Iran? Est-ce que ce sera très ferme? Il a quand même l'air d'écarter une possibilité d'une attaque directe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa stratégie à Donald Trump?
Alors, la fermeté, il n'y a aucun doute. Après, la question, c'est que selon quelle modalité? C'est-à-dire une logique de sanctions renforcées ou envisager une option militaire. Et avec une question des journalistes, il a dit qu'il ne répondrait pas justement à ce type de questions. Là aussi, c'est pour maintenir une forme d'ambiguïté par rapport à Téhéran. Ce qui est sûr, c'est que il a dit que la situation était très dangereuse et qu'on ne pouvait rien exclure. Donc c'est une manière de ne pas fermer la porte à potentiellement le recours à une option militaire dont il n'est pas un défenseur a priori, puisqu'il se présente comme le président qui veut sortir des conflits, arrêter les guerres. Donc là, il y a une contradiction qui n'est pas levée, parce que de toute façon, si l'option militaire devait être avérée, elle impliquerait nécessairement au moins un aval américain, sinon une aide américaine, parce que les sites nucléaires en question en Iran sont profondément enfouis et il se trouve que les munitions qui sont potentiellement capables de les atteindre sont exclusivement américaines. Les Israéliens auraient de toute façon besoin d'une aide américaine pour une opération militaire d'ampleur. Donc là, on retrouve effectivement la complexité de la situation.
Dernière question avant de nous quitter. Est-ce que vous pensez que l'Europe va suivre dans la ligne de Donald Trump, potentiellement aussi réimposer plus de sanctions ou nommer les gardiens de la révolution comme organisation terroriste?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant par rapport à 2018, lorsque Donald Trump était sorti unilatéralement de l'accord sur le nucléaire, au grand dam des Européens, justement, qui n'en pouvaient. Mais aujourd'hui, il y a une convergence compte tenu de l'accélération du programme iranien. Et ça explique aussi la fébrilité à Téhéran, qui comprend que les Européens aujourd'hui sont prêts à envisager un mécanisme qui était prévu d'ailleurs par l'accord sur le nucléaire, qui s'appelle le snapback, qui était un outil technique d'ailleurs promu par les Français, prévoyant potentiellement une restauration automatique des sanctions, non pas bilatérales, mais internationales, qui avaient été levées en 2015, dès lors qu'il serait avéré que Téhéran serait en infraction caractérisée par rapport à ses engagements initiaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce que les Européens, et notamment l'E3, c'est-à-dire Berlin, Paris et Londres, laissent entendre. Et c'est effectivement, il y a l'horizon de octobre 2025, parce que pour pouvoir mettre en place éventuellement ce mécanisme de restauration automatique, ça suppose que ça soit décidé avant la fin du JCPOA en octobre 2025. Donc on voit bien que le calendrier s'accélère.
Très bien, c'est très intéressant comme d'habitude avec vous. Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous
Merci
êtes chercheur à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Merci.